Alors, vous êtes toujours sur Radio Libre Circulation en direct de la Chapelle. Et nous sommes ici avec Marion. Bonjour Marion.
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est chouette que tu sois venue. Tu fais partie d'une association et aussi d'une émission de radio qui est donc...
Esperanto Magazine, tous les lundis soirs de 8h à 9h sur Canal Sud.
Sur Canal Sud. Et justement, et là, vous êtes non seulement... Alors, qu'est-ce que l'espéranto? On rappelle, l'espéranto, c'est une langue qui voudrait être universelle.
C'est une langue sans frontières qui existe déjà depuis 130 ans et que des individus, des associations utilisent pour différentes choses. Donc, depuis 130 ans, une langue qui n'est pas la langue d'un pays et qui appartient à tous ceux qui veulent bien l'apprendre. Une langue voilà, qui n'a pas de frontières et qui permet de rencontrer des gens de tous les pays du monde, qui permet de les rencontrer et de casser les frontières qu'on peut avoir dans nos têtes aussi, de découvrir d'autres cultures avec une langue commune, facile à apprendre, accessible à tous. Voilà, en quelques mots.
Facile à apprendre ?
Oui, plus facile à apprendre que, en tout cas, toutes les autres langues, vu qu'elle a été construite pour ça.
D'accord.
Elle a été, donc, en fait, les 130 ans de la première méthode d'espéranto, justement, cette année. Donc, c'est à la fin du 19e siècle. Ah, il y a un problème de micro.
19e siècle
oui. Ouais, à la fin du 19e siècle. Donc, voilà, 130 ans, c'est à la fois, c'est beaucoup, mais c'est la plus jeune, on peut dire, des langues vivantes. Et depuis 130 ans, ben, l'espéranto fait son petit bonhomme de chemin et continue à être utilisé de plus en plus avec Internet, qui à sa manière aussi abolit un certain nombre de frontières. Mais bon, après pas toutes, parce que dans le mouvement espérantiste, dans le réseau espérantiste, on est aussi confronté à des problèmes de visa quand on veut inviter nos amis africains ou d'autres pays d'Asie. Et bon, voilà, après, c'est les difficultés auxquelles on est confronté et qui dépassent simplement la question de la langue.
Et là, maintenant, au-delà de cette émission que vous faites régulièrement depuis pas mal d'années à Canal Sud, il y a aussi un événement que vous allez créer au mois de mars.
Voilà, dans le cadre de la semaine de l'espéranto, qui est un événement qu'on organise depuis plusieurs années au mois de mars, on prévoit une journée entière qui sera autour... à la fois du thème des réfugiés, mais aussi du thème de la retirade, de l'exil espagnol après la guerre d'Espagne. Donc on va inviter pas mal d'amis de l'autre côté des Pyrénées qui vont venir témoigner, qui vont venir parler de situations historiques ou de situations personnelles. On parlera de cas de personnes en particulier qui étaient des espérantistes. Et notamment, il y aura la présentation d'un livre que j'ai là sous les yeux, qui s'appelle « Tagoi kai ruinoi », « Des jours et des ruines », et qui raconte l'histoire d'un espérantiste catalan, enfin qui raconte l'histoire, qui en fait c'est une traduction en espéranto de ses notes de son journal de bord en fait, qu'il a écrit en fuyant donc la guerre d'Espagne comme des milliers d'autres à l'époque. Il est passé par tous les camps de Argelès au bord de la mer jusqu'à Recebedou, là juste sur le à côté de Toulouse vers Porté, et donc il a écrit en espéranto ce qu'il vivait, comment il vivait ou comment il survivait. Et là, j'ai pris justement un petit texte, c'est pas long, c'est quelques lignes en espéranto, que je commenterai après.
D'accord.
Ce qu'il a écrit justement quand il était à Recebedou, là, à côté de Toulouse. Ça vous permettra d'écouter un petit peu d'espéranto comme ça.
Son nom à ce monsieur ?
C'est Jaume Grau Casas, donc un espérantiste catalan, qui était poète et connu dans le milieu espéranto avant, parce qu'il avait écrit aussi des livres, traduit des poètes catalans en espéranto.
On écoute ce texte.
La viro kai la hundo, l'homme et le chien. Je ne vais pas lire tout le texte, je n'ai que les premières lignes. Chu iam vividis plurain hundoin, pridisputantai oston. Mi vidis viron, kiu havis nur ostoin, batali contrau hundon. La viro estis rifuginto, kiel mi, kai la hundo suferis malsaton, kiel prescau ciui rifugintoi. Ancau la hundon serchas rifugion, kai ancau ni, rifugintoi, vivas hundan vivon. Je ne traduirai pas aussi bien en français parce que c'est vraiment très, très joli au niveau de la, enfin, du texte et du style de la poésie. Mais en gros, il explique que l'homme et le chien, qu'en fait, dans ces camps, la situation où on mettait les réfugiés, c'était les ramener à l'état de bête. Et il raconte un moment où il a dû se battre avec un chien pour un os. Un homme qui avait que les os, enfin, qui avait la peau sur les os, se battait pour un os avec un chien et du coup était ramené à l'état de bête comme un chien. Et après il continue un petit peu sur cette métaphore, enfin sur cette mais ça montre bien, je trouve que c'est pas mal ce retour aussi historique, de voir que il y a plus de 70 ans ou aujourd'hui, c'est la façon dont on traite des êtres humains, en les laissant mourir dans la mer, dans la montagne, ou en les parquant dans des camps, c'est aussi ne pas leur donner cette dignité d'être humain, et c'est les ramener à l'état de bête, quoi. Ouais, on en parlait tout à l'heure.
Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs encore aujourd'hui même, donc autour de Calais. C'est ce qu'on rappelle, qu'il n'y a pas plus d'un an, qu'effectivement donc il y a eu l'expulsion assez brutale de la dite jungle de Calais, et qui d'ailleurs se reconstruit de fait aujourd'hui, où on voit qu'aujourd'hui, c'est ce que dénonce notamment la CIMADE et bien d'autres associations et groupes, qu'effectivement là, immédiatement, maintenant, pendant qu'on en parle, c'est le gouvernement en place donc de Macron qui empêche les personnes à accéder à l'eau, d'accéder à un minimum de dignité, un minimum de ce qui nous semble évident pour tous les citoyens français et européens. Et petit rappel historique, donc ces camps en France ont été aussi parmi les premiers lieux où notamment la CIMADE est intervenue. C'est simplement la CIMADE, mais et plein d'autres gens qui sont intervenus effectivement pour dénoncer cet état de fait et soutenir les gens dans les camps. Donc ces camps qui ne sont pas du tout finis à travers le monde.
Non, et heureusement, à travers l'histoire et encore aujourd'hui, il y a des réseaux de solidarité qui se mettent en place, la CIMADE, ou pour le Jaume Grau Casas, lui, il a pu se servir du réseau espérantiste pour être aidé, pour recevoir des paquets, quand il a pu avoir la possibilité de quitter les camps, être hébergé par des espérantistes à Toulouse, qui d'ailleurs ont récupéré toutes ses notes et lui ont renvoyé quand il était retourné en Catalogne. Il n'avait pas pu les ramener, et plus de 20 ans plus tard, ils ont renvoyé ces notes qui ont permis aujourd'hui d'avoir ce livre, donc en espéranto, mais il y a aussi un livre en français de Marie-Hélène Melendez qui raconte l'histoire de la même personne, qui s'appelle Ulysse dans la boue, et je pense qu'on peut encore le trouver dans les librairies. Donc voilà, le 17 mars, on espère à la chapelle, ça serait bien, toute une journée avec donc le traducteur qui sera présent. Il y aura des lectures de poésie, de textes, il y aura aussi des films sur ce sujet, et on fera des allers-retours entre l'histoire. Voilà, les réfugiés espagnols qui sont arrivés souvent autour de Toulouse, dans les camps autour de Toulouse, et qui ont fait leur vie à Toulouse, et les réfugiés, les migrants, les gens qui arrivent aujourd'hui et qui vont faire leur vie à Toulouse, et avec qui on est solidaires, et on espère que plus de gens seront solidaires avec eux. Voilà.
Et sur Toulouse notamment, on peut aussi dire qu'il y a notamment ce fils de réfugié espagnol, quelqu'un donc, et c'est le poète Serge Pey, qui est bien installé justement sur la place toulousaine. Donc je renvoie à toutes les lectures, notamment Souvenirs de la guerre d'Espagne, notamment, et d'autres ouvrages qu'il a fait, notamment où il raconte l'histoire de son père, où il raconte et notamment ces lieux où les gens étaient parqués effectivement comme des animaux, et comme ils étaient très mal nourris, à taper régulièrement la dysenterie, et pour aller les nettoyer, puisqu'effectivement les gens, comme il le dit très crûment Serge Pey, ils se chiaient dessus, que c'était horrible ce qu'ils vivaient, et bien les forces armées françaises à ce moment-là les amenaient au bord de la mer pour qu'ils aillent se laver dans la mer en plein hiver, quoi. Donc des choses très très dures de l'histoire de France, mais qui sont hélas encore des choses que l'on vit ailleurs. Et je crois que ça renvoie aussi à des choses que toi tu as pu attester aussi à travers les camps que tu as rencontré, David, divers camps, donc avec Radio No Border, où tu as pu être présent et témoin.
Oui, ça m'intéressait, ça, parce que je trouve qu'il y a tout un travail de des récollections de souvenirs, non? Pour se rappeler de quelque chose. En fait, qu'est-ce que tu dis? Ça m'intéressait parce que ça fait quelques mois que je suis allé à... Je suis passé, en fait, seulement par Argelès.
Par où? Argelès.
Oui, par Argelès. Et en fait, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui rappelle les camps, non? Parce que moi, j'ai trouvé par hasard, je pense, dans Saint-Jou, qu'il y avait un petit monument, c'était 1m50, où il y avait écrit qu'il y avait, qu'ici, il y avait un camp de réfugiés. Mais en fait, maintenant, Argelès, c'est une ville où tu vas à la mer, tu vas l'été.
Touristique.
Moi, si j'avais pas rencontré cette petit monument-là, j'aurais jamais su exactement qu'est-ce que s'était passé là-bas et combien de milliers de personnes ont vécu là-bas dans des conditions horribles, par exemple. Et c'est la même chose qui m'est passée quand on a fait la radio, nous, à Radio No Border, on est né exactement dans les camps des domaines. Et en fait, quand le camp a été évacué, a été complètement effacé. Si maintenant tu passes par là, t'as aucune idée que là-bas, ils ont vécu 15 000 personnes. Pour des mois. Il n'y a complètement pas de souvenirs de ça, pas de mémoire, pas de traces. C'est ça la chose la plus importante, je pense. Bon, ces livres, ils laissent une trace de qu'est-ce que c'est.
C'est pour ça que les témoignages, c'est important de les collecter. Enfin, à l'époque, c'était des journaux, il écrivait sur des petits bouts de journaux qu'il récupérait dans les marges, en fait, et tout ça. Et après, souvent, c'était difficile. Le traducteur disait, mais des fois, on n'était pas sûr que c'était ça qu'il écrivait. Parce que c'était vraiment des conditions, même pour écrire, il n'y avait pas de cahier, de crayon, enfin, c'était difficile. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de témoignages, enfin, voilà, de la radio, des vidéos, et c'est important parce que justement, ça remet l'humain au centre, c'est pas juste de la géopolitique, c'est pas juste des camps, de la géographie sur une carte ou des dates, c'est des expériences humaines, mais, ultra difficiles, Et ça, c'est en le lisant, en écoutant, qu'on arrive à le ressentir et à se rendre compte comment c'est horrible et comment c'est pas normal.
Moi, je trouve surtout que c'est un peu un chien qui s'est mort de la queue, non? Je sais pas, on tourne un peu en rond sur ça, parce que je trouve que la volonté quelquefois d'effacer, c'est comme dire ça pas existé, non? On peut le faire une autre fois, parce que en 70 ans, on va se pas rappeler qu'est-ce qu'il y avait là-bas, non? On efface un camp de réfugiés comme Argelès, on construit des bâtiments, et bon, on peut le faire une autre fois, c'est ça la chose. Ça me touche. Quand je vivais à Idomeni, ça me touchait beaucoup ça, mais je suis repassé après des mois qu'il n'y avait rien. Je suis allé regarder les photos, je suis allé regarder les podcasts qu'on a fait parce que j'avais comme l'impression, mais je l'ai vraiment vécu là. J'étais vraiment là-bas ou pas?
Ouais.
Parce que je me rappelais pas. Oui, je me rappelais. Mais c'était tellement absurde de voir personne, silence incroyable. Tu disais non. Mais ça a passé.
C'est passé.
Mais on se rappelle pas.
D'où l'importance des témoignages, et notamment, de témoignages et de la parole. Après, ça rappelle tout simplement, quand on veut effacer une histoire comme ça, c'est tout simplement, c'est orwellien, quoi, c'est Orwell, c'est 1984, on efface l'histoire et on en recrée une autre, d'où l'importance de continuer à ouvrir sa bouche et à dire ce qu'il en est, et notamment donc de rapporter ce témoignage de, alors je le dirai pas aussi bien que toi, de ce monsieur Jaume
Grau Casas, j'ai pas un très bon accent catalan non plus, mais bon. Donc voilà, Tagoi Kairuinoi, le livre en espéranto, ou sinon Ulysse dans la boue pour le livre en français. Alors c'est les moins complets, le livre en français, mais bon voilà, il est peut-être plus accessible pour ceux qui n'ont pas encore appris l'espéranto.
Voilà. Espéranto, on rappelle, donc, c'est tous les lundis soirs sur Radio Canal Sud.
De 20h à 21h.
L'émission est ouverte à du public ou non?
Et à des invités, d'ailleurs. On a souvent traité le thème aussi des réfugiés. On avait invité, un jeune migrant du collectif Autonomie, SOS Méditerranée. Bon, ça tourne aussi beaucoup autour de l'espéranto ou des valeurs et des thèmes qui nous tiennent à cœur, notamment voilà tout ce qui peut concerner les autres cultures et justement un monde un peu avec moins de frontières, que ce soit dans les têtes ou entre les pays.
Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous dire Radio Libre Circulation en espéranto?
Alors je propose une traduction circulation, ça serait trafico, mais bon, je pense que l'idée serait plutôt le mouvement, la liberté de mouvement, donc je vais proposer Radio Liberai Movoi.
Redis.
Radio Liberai Movoi.